La signification du terme « Fils de Dieu ». Étude numéro 211. Cette étude est une explication du terme « Fils de Dieu » tel qu'utilisé dans la Bible et tel que compris par les Juifs et la première Église. Le titre de « Fils de Dieu » est donné par ceux qui revendiquent être ses disciples à l'homme né dans le règne du roi Hérode en Israël au 1er siècle avant l'ère courante. Hérode est mort entre le 1er et le 13 Nissan en l'année 4 avant l'ère courante. L'homme était un juif de naissance et est né à Bethléem dans le clan de David, roi d'Israël. Sa mère s'appelait Myriam, dans le monde hellénisé. Entre parenthèses, comparez Luc chapitre 1 verset 27 à 56, appelé Mariam, SGD, dictionnaire grec de Strong, 31-37. Sa sœur, femme de Cléophas, s'appelait Maria, qui est simplement une autre version de ce nom. Elle a épousé Joseph, de la lignée de David, par Salomon, et Jéconia. Voir Matthieu, chapitre 1, verset 7 à 17. Elle était elle-même de la lignée de David par Nathan, et était reliée par le sang à la tribu lévitique par Élisabeth, sa cousine, qui était la femme du grand sacrificateur de la division d'Abidja. Voir l'étude La généalogie du Messie, étude numéro 119. Elle est tombée enceinte avant qu'elle n'ait épousé Joseph, et il allait la répudier. Par l'intervention miraculeuse, il n'a pas agi ainsi, et un enfant lui est né, qui a été appelé Yahoshua, SHD 30-91. Maintenant prononcé Joshua. Par le raccourcissement du son Ha et de l'application incorrecte de la lettre J en hébreu. Il signifie « Yahovah a sauvé ». C'est le même nom qui est donné à Yahoshua, ou Josué fils de Nun, le chef d'Israël, à la mort de Moïse. Il a été écrit par les Grecs comme « Yesu », voir le dictionnaire grec de Strong, 24-24, comparé Luc chapitre 3 verset 29, Hébreu 4 verset 8. Cette version est due aux limitations linguistiques en prononçant la lettre Y en hébreu et la tendance de raccourcir les noms au temps du Nouveau Testament. À l'époque où Yahoshua est venu, les Juifs espéraient sérieusement à un Messie prophétisé. Pourtant, plusieurs dans les églises du monde ont mal compris qui les Juifs attendaient. Voyons qui les Juifs pensaient que le Messie serait. Ils savaient qu'il serait de la maison de David, et spécifiquement de Bethléem, Ephrata. Il serait également né d'une vierge, mais ils ont mal compris ce fait. En outre, son nom a été mal compris. Nous lisons dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Version 8 secondes. Voir l'étude Michée, chapitre 5, versets 2 à 3. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 7, versets 13 à 14. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Version Louis II. Immanuel signifie littéralement « avec nous et Dieu ». Cet aspect de la prophétie a été donné à Ésaïe, de sorte qu'on la voit pour s'étendre au-delà des temps d'Akaz, comme nous le voyons d'Ésaïe chapitre 8, verset 8, et impliquerait la captivité de la terre d'Immanuel. Ésaïe, chapitre 9, verset 6 à 7, nous lisons. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. » Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Version 8 secondes. Ésaïe chapitre 11 verset 1 à 4, nous lisons « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejetant naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Version Louis II. Nous lisons le livre du prophète Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 6. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. » Version Louis II. Ainsi, ce n'est aucune surprise que quand Yahushua leur a demandé de quel fils le Messie était, dans Matthieu, chapitre 22, versets 41-42, il répondrait qu'il était le fils de David. Mais remarquez que le Messie continue à leur expliquer quelque chose qu'ils n'ont pas compris auparavant. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 43-45. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?» Version Louis II. Remarquez leur réponse. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 22, verset 46. « Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. » Version Louis II. Les Juifs n'avaient aucune idée que le Messie serait d'origine divine. Cependant, comment cela se peut-il, d'après les Écritures mentionnées ci-dessus, entre parenthèses, Ésaïe 9, versets 6 à 7, Ésaïe 11, versets 1 à 4, Jérémie 23, versets 5 à 6, la réponse simple est que les Juifs n'ont pas compris ces Écritures. Regardez ce que la Sainte Synode indique au sujet d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, en ce qui concerne l'expression « une vierge ». Citation. La jeune femme, Ha, Alma, en hébreu, signifie « une femme adolescente d'un âge nubile ». L'argument que le mot doit nécessairement suggérer « vierge » est sans garantie. L'hébreu pour « vierge » est « betula », bien que « Alma » porte aussi parfois cette signification. Il est difficile de dire avec certitude qui était la jeune femme visée. La considération chronologique exclut la mère d'Ézéchias. Entre parenthèses, voir Rashi, Ibn Ezra et Kimchi. Et le fait que la naissance ou le nom devait servir de signe pour convaincre Akaz de l'accomplissement certain de la prophétie exclut l'interprétation christologique. L'épouse d'Ésaïe, selon Rashi, Ibn Ezra, une épouse d'Akaz, selon Kimchi, ou une femme de la famille royale, voire Arbarbanel, a pu avoir été la jeune femme du texte. Voir donc Isaiah, Shonsino Press, New York, page 35. De même, le passage d'Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6, en ce qui concerne les expressions « un enfant », une personne contemporaine est visée, le Talmud et les commentateurs juifs postérieurs ont compris l'allusion pour être le fils d'Akaz, à savoir Ézéchias. Le gouvernement est sur son épaule, à la différence de son père qui était un vassal du roi d'Assyrie. Pélé, Joaz, etc., la signification des mots hébreux est « merveilleux en conseil et Dieu le puissant, le Père éternel, le gouverneur de paix ». L'enfant portera ses noms, afin de rappeler au peuple le message qu'ils incarnaient. Voir le même ouvrage, page 44. Fin de citation. La Septante rend la traduction d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6, comme l'ange du grand conseil. Ceci a été compris en termes physiques, comme un messager humain. La Septante a été rejetée par la secte rabbinique qui a succédé aux pharisiens après la dispersion suite à la destruction du temple en l'année 70 de l'ère courante. Ainsi, il est clair que les Juifs ont correctement compris que le Messie était celui pour être le fils de l'homme, né de la femme, comme fils de David, mais ont complètement mal compris la position biblique qu'il serait également le fils de Dieu par origine divine. Le Messie s'identifie clairement en tant que tel aux personnes de son époque, et les gens l'ont correctement appelé le Fils de Dieu. La question devient confuse quand nous considérons l'utilisation contemporaine de l'expression. Dans l'ère moderne, les gens se réfèrent par habitude à l'humanité comme fils ou filles de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Cependant, la plupart des personnes contemporaines ont mal compris l'interprétation juive de ce que signifiait l'expression « fils de Dieu » au premier siècle. Nous verrons qu'elle signifiait quelque chose de tout à fait différent que ce qui est compris aujourd'hui. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 14 à 17. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Version Louis II. On pourrait se demander pourquoi c'était une telle révélation merveilleuse. Parce que sûrement le Messie leur a dit qui il était, et au sujet de la façon dont il est né d'une vierge, etc. Ainsi, pourquoi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, serait-elle une étrange révélation? Pour comprendre pourquoi c'était une révélation étonnante par Pierre de sa compréhension de qui l'homme, Yahushua, était, nous devons aller dans l'Ancien Testament pour voir comment le terme est utilisé. C'était le contexte duquel il venait. Il n'avait pas le Nouveau Testament, écrit avec sa référence commune aux élus en tant que le Fils de Dieu. L'Église de Dieu au XXe siècle a toujours interprété cette expression, particulièrement comme utilisée dans le Nouveau Testament, en référence aux élus. Mais regardons là de nouveau et comment elle est utilisée dans le contexte historique des Juifs au premier siècle. Nous lisons dans Daniel, chapitre 3, verset 25. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Version Louis II. Nous lisons dans Job 1, verset 6, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Version Louis II. Nous lisons dans Job, chapitre 2, verset 1, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. » Version Louis II. Ainsi, d'après les Écritures ci-dessus, dans Job, nous pouvons voir que Ha-Satan, ou l'adversaire, Satan le diable, est compté parmi les fils de Dieu. Job 38, verset 7, nous lisons, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, » Version Louis II. Nous lisons dans Psaume 29, verset 1, « Psaume de David, fils de Dieu, en hébreu, Béné Elim, c'est-à-dire fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Version Louis II. Nous lisons dans Psaume 89, verset 6, « Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ?» En hébreu, « Béné Elim », c'est-à-dire « fils de Dieu ». Version Louis II. L'Éternel ici est Yahovah. Le concept semble être que le Messie est le Yahovah mentionné ici. Vous pouvez aussi consulter l'encyclopédie ISBE référée ci-dessous. Ainsi, de l'Ancien Testament, on peut voir, suite aux références ci-dessus, que le paradigme historique des personnes du 1er siècle était que l'expression « fils de Dieu » était employée en référence à l'armée céleste. Il y a deux écritures qui font référence au fils de Dieu, et qui sont quelque peu controversées quant à savoir si la référence est aux humains ou à l'armée. La première est Genèse, chapitre 6, versets 2 à 4. Le très débattu récit des Néphilim. Le commentaire Jamieson, Fawcett and Brown Commentary fait référence au dernier verset dans Genèse 4 et les gens ont commencé à invoquer le nom du Seigneur et dit qu'il devait être traduit par et les gens ont commencé à s'appeler par le nom du Seigneur. Ainsi, leur interprétation est que les fils de Dieu dans Genèse chapitre 6 verset 2 à 4 devraient se référer aux fils de Caïn qui ont pris pour eux-mêmes le nom de Dieu. Cependant, les Juifs d'aujourd'hui ou du premier siècle, tient-il cette vue? Joseph, Josephus, un historien du premier siècle, note « Or, cette postérité de Seth a continué à estimer Dieu en tant que Seigneur de l'univers et à avoir un respect entier pour la vertu pendant sept générations. » mais au cours du temps, elle a été pervertie et a abandonné les pratiques de ses ancêtres et n'a pas payé non plus ses honneurs à n'importe quel souci de rendre justice envers les hommes. Mais pour quel degré d'ardeur ils ont autrefois montré pour la vertu ? Ils ont montré maintenant pour leurs actions un degré double de méchanceté, par lequel ils ont fait Dieu pour être leur ennemi. Car beaucoup d'anges de Dieu accompagnés avec des femmes ont engendré des fils qui se sont avérés injustes et des dénigreurs de tout ce qui était bon à cause de la confiance qu'ils avaient dans leur propre force, parce que la tradition est que ces hommes ont fait ce qui a ressemblé aux actes de ceux dont les Grecs appellent des géants. Entre parenthèses, voir le note de bas de page qui dit « Cette notion que les anges déchus étaient dans un certain sens les pères des anciens géants était la vue constante de l'Antiquité. » Fermez la parenthèse. Voir donc l'ouvrage de Josephus, « Les Antiquités des Juifs », livre 1, chapitre 3, section 1, la traduction de Whiston. Comme on peut le voir de Josephus, qui était un pharisien du 1er siècle, les Juifs croyaient que Genèse, chapitre 6, versets 2 à 4, était une référence à l'armée démoniaque. Si vraiment Genèse 6, versets 2 à 4, est en réalité une référence aux humains de la lignée de Seth ou de l'armée démoniaque, c'est non pertinent. Les Juifs du 1er siècle ont clairement identifié le terme « fils de Dieu » avec l'armée angélique. L'idée que les fils de Dieu se réfèrent à la lignée de Seth vient d'Augustin, d'Hippone, dans son ouvrage « La cité de Dieu », vers 400 de l'ère courante. Ce n'est pas un concept hébreu. L'autre texte est Osée chapitre 1 verset 10 où les fils de Dieu peuvent se référer aux êtres humains. Nous lisons dans Osée chapitre 1 verset 10. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Version Louis II. Or, cela peut être une référence aux êtres humains, mais c'est une prophétie des fils d'Israël étant réunis ensemble, et à qui l'Esprit Saint de Dieu est donné dans le millénium. Comme les destinataires de l'Esprit Saint, ils sont des fils engendrés qui seront nés dans le royaume des cieux à leur résurrection. Ainsi, c'est une prophétie duelle. Les fils d'Israël seront établis de nouveau dans leur patrie pour être le peuple de Dieu. L'Esprit Saint leur sera donné, leur permettant d'être appelés les fils de Dieu, comme nous, parce que c'est leur destin, comme c'est le nôtre d'être les véritables fils de Dieu. C'est la prophétie qui a permis aux apôtres Paul et Jean de déclarer si ardemment que nous sommes maintenant les fils de Dieu. Pas parce que nous avons maintenant éprouvé la résurrection comme des fils littéraux, mais c'est la promesse de Dieu, et l'Écriture ne peut pas être anéantie. Ainsi, dans la résurrection, l'autre aspect de ceci sera accompli. Les fils d'Israël seront les véritables fils de Dieu, étant des fils de la résurrection. L'évangile de Luc, chapitre 20, versets 35 à 36, nous lisons. « Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Version Louis II. Le terme « égal aux anges » vient du grec « isagelos », qui est un mot composé tiré de « isos », signifiant « égal » en quantité ou en qualité, et « agelos », signifiant « ange ». La signification est que les chrétiens dans la résurrection seront rangés comme fils de Dieu, ceci étant une des classes de l'armée céleste. Voir l'étude « L'ange » de YHVH numéro 24, l'annexe 1. Regardez ce que cela indique. Toutes les fois que l'expression « le fils » ou « les fils de Dieu » est employée, elle est utilisée exclusivement pour l'armée. Nous sommes alors greffés dans la famille de Dieu par adoption, comme Paul en a parlé, à travers l'Esprit Saint qui demeure en nous. L'Église, au XXe siècle, a limité Luc chapitre 20, versets 35 à 36, comme étant une référence à un être asexué ou sans genre. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Elle ne dit pas qu'à la résurrection, les gens qui ont été des hommes ou des femmes seront maintenant sans genre. Elle dit, cependant, que nous serons comme les anges, étant les fils de Dieu. L'implication claire de ceci est basée sur la suite de chaque référence dans l'Ancien Testament, aux fils de Dieu en référence à l'armée, signifiant que nous serons une partie de l'armée céleste comme fils de Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Version Louis II. Ainsi, les conciliateurs ne sont pas maintenant des fils de Dieu, mais ont cela comme leur destin final, car ils seront appelés fils de Dieu. Par conséquent, regardez ce qui est dit entre les scribes, les pharisiens et les sacrificateurs et le Messie pendant son ministère. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 63 à 65. Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. » Version Louis II. Pourquoi serait-ce un blasphème de dire que vous étiez le Fils de Dieu ? Remarquez, dans Jean, chapitre 10, versets 24 à 38, nous lisons « Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux ? » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes, et ce parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu ». Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Version Louis II. Il est évident que l'expression « le Fils de Dieu » voulait dire beaucoup plus pour eux que juste un des enfants d'Adam, voir Luc, chapitre 3, verset 38. Cela signifiait qu'il provenait des cieux comme un de l'armée. Quand Yahushua a réclamé le titre de fils de Dieu, ceci constituait pour eux un blasphème. À leur avis, quand il l'a dit, il s'est fait lui-même égal avec le YHWH Elohim de leur père, dont ils savaient qu'il était. Citation. L'ange de l'Alliance, c'est-à-dire Dieu dans un personnage représentatif, c'est-à-dire Dieu de l'Alliance d'Israël, voir le commentaire de Barnes. Rashi et Erlich interprètent l'ange désigné pour venger la transgression de toute alliance. Voir l'ouvrage The Twelve Prophets, Sun Sino Press, page 389. Fin de citation. Ainsi, nous pouvons voir que les Juifs aurait interprété sa déclaration comme signifiant qu'il était un de l'armée céleste, et c'est pourquoi ils ont voulu le lapider. Il se faisait passer pour être le YHWH Elohim d'Israël, lequel bien sûr il était. Ainsi, dans l'esprit des Juifs, lui étant un homme, se faisait passer pour un Dieu, comme les Juifs comprenaient ce terme, c'est-à-dire comme l'ange de la présence. Ce grand ange était le second Elohim d'Israël. Ceci constituait une hérésie grossière et un blasphème pour ceux qui n'avaient pas compris les prophéties de sa venue. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 18. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » En grec, « monogenous ouios tout teou » ou « le seul Fils né du Dieu ». Jean 19, verset 7, nous lisons « Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Version Louis II. Inclus dans ce titre, « Fils de Dieu » est plus que juste ce que nous lisons en un coup d'œil. Cela signifie qu'il était un de l'armée descendant du ciel pour être incarné. Et alors, ce grand être n'a rien fait pour les libérer de l'esclavage des Romains, mais leur a dit de se repentir, ce qui les libérerait d'un plus grand asservissement que celui des Romains, à savoir la mort. C'était comme le sel dans la blessure pour les chefs juifs, et ils l'ont tué pour cela. Ils ont refusé de se repentir, quoiqu'un plus grand prophète leur a été envoyé à eux, plutôt qu'à n'importe laquelle des autres nations. C'est pourquoi les enfants de Sodome et de Ninive se lèveront pour le jugement sur la génération des Juifs du premier siècle. Voir Matthieu, chapitre 11, verset 20 à 24, chapitre 12, verset 41. Mais celui qui a entendu ces paroles et qui a été témoin de ces actes savait qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont pris sa remontrance pour le juger sur les œuvres qu'il a effectuées que les scribes, les pharisiens et les sadducéens ont rejetées. Voir Jean 10, verset 38. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 27, elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Version Louis II. Nous pouvons voir ici qu'elle l'identifie comme le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'être angélique qui vient au monde. Le focus est sur le Fils qui vient au monde. C'est soutenu par Galates 4, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils pour être né d'une femme née sous la loi. Version Louis II. La construction grammaticale ici est que Yahushua était Fils de Dieu avant son incarnation. Et Dieu l'a envoyé pour être né d'une femme. Quand un homme a un enfant, il ne dirait pas que j'ai envoyé mon enfant. Cependant, c'est la façon dont plusieurs interprètent ce texte. Clairement, Yahushua était le Fils de Dieu avant sa naissance humaine et a été envoyé par Dieu pour être le seul Dieu né. Voir Jean 1, verset 18, comparer le texte de l'interlinéaire de Marshall et Syriac. Pour conclure, voici ce que l'encyclopédie The International Standard Bible Encyclopedia, édition de 1988, sous l'article « Les fils de Dieu », Ancien Testament, volume 4, page 584, indique sur la signification du terme « les fils de Dieu ». Citation. « Les fils de Dieu, hébreu « Bene Ha Elohim, Bene Elim, être divin », de même que l'expression « les fils de l'homme » veut dire « les êtres humains » en hébreu, ainsi l'expression « les fils de Dieu » veut dire « être divin », c'est-à-dire « Dieu » au pluriel. Dans la religion et le mythe cananéen, le terme « fils de Dieu » ou « fils des dieux » se rapportait aux dieux en général. Ils étaient les déités du panthéon qui s'assemblaient pour rendre des décisions concernant le gouvernement du monde. Les textes mythologiques ou garitiques, par exemple, appellent ce conseil divin l'assemblée des fils de Dieu, entre parenthèses ou de El, le dieu en chef. La survie de cette idée dans la tradition cananéenne est illustrée par une référence à tous les fils des dieux dans une incantation phénicienne du 7e siècle avant Jésus-Christ trouvée à Arlan, Tas, en Syrie du Nord. La même utilisation se produit au moins de façon rudimentaire dans certains passages dans la Bible hébraïque. Deutéronome 32, verset 8 indique que « quand le Très-Haut donna aux nations leur héritage, quand il sépara les fils des hommes, il fixa la limite des peuples selon le nombre des fils de Dieu. » Le texte massorétique a incorrectement les fils d'Israël, Béné Israël, mais les versions par exemple de la Septante, Simac, du vieux latin et un rouleau du Qumran soutiennent la lecture les fils de Dieu, ou Béné Elim. Les fils de Dieu apparaissent dans d'autres passages poétiques qui ont un caractère archaïque. Job 38, verset 7 par exemple, les identifie avec les étoiles du matin et rappelle qu'ils ont crié leur joie à la création de la terre par Yahvé. Psaume 29, verset 1 fait appel aux fils de Dieu, de l'hébreu Béné Elim, la RSV « Être céleste » pour louer Yahvé. Psaume 82, verset 1 décrit Yahweh comme se levant au milieu des dieux, c'est-à-dire au conseil divin. Littéralement, « conseil de El » pour émettre le jugement sur les autres dieux. Le verset 6 et suivant dit « Vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut, vous tous. Néanmoins, vous mourrez comme les hommes. » Psaume 89, verset 6, dans le texte massorétique, verset 7, est une affirmation de la non-comparabilité de Yahweh. Qui parmi les êtres célestes, Béné Élim, ressemble au Seigneur? Comparez Exode 15, verset 11. De nouveau, l'intention originale de ces passages a pu avoir été de représenter Yahweh comme une déité, quoique la plus grande et seule déité juste à côté des autres dans le conseil divin. Mais les passages ont été préservés parce qu'ils peuvent être compris à la lumière de l'idée biblique générale d'un conseil d'être divin subalterne, entre parenthèses messager ou ange, gouverné par Yahweh. Voir psaume 82 en particulier dans G.E. Wright, Old Testament Against Its Environment, aux pages 30 à 41. Le prologue dans Job reflète cette notion biblique plus habituelle des êtres divins subalternes. Job 1, verset 6 et Job 2, verset 1 se rapportent à un jour où les fils de Dieu sont venus pour se présenter devant le Seigneur. Dans ce cas-ci, les fils de Dieu sont des êtres angéliques qui effectuent la volonté de Yahweh sur la terre et relèvent de lui dans son conseil céleste. La figure relativement indépendante de l'adversaire, Ha-Satan, dans ce contexte prévoit des développements postérieurs dans la tradition judéo-chrétienne selon laquelle Satan ou Lucifer et ses anges, compagnons, ont été considérés comme ayant une autonomie suffisante pour se rebeller contre Dieu. Fin de citation de l'encyclopédie. Cela a une application et une signification très claire à ce que le Messie a réalisé en devenant humain. Notez son contraste avec Satan qui a essayé d'atteindre l'égalité avec Dieu par la force. Nous lisons dans Ésaïe 14, versets 12 à 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Version Louis II. Et voici ce que le Messie a fait. Nous lisons dans Philippiens 2, versets 6 à 9. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Version Louis II. Ainsi, nous avons une comparaison entre deux fils de Dieu, comme noté dans Job. Un, Ha-Satan, l'adversaire, a essayé de se glorifier au-dessus de ses frères, les anges, et a essayé de saisir un titre glorifié par la force. L'autre, Yahushua le Messie, s'est humilié et est devenu un esclave et une offrande, et alors Dieu l'a glorifié pour ce qu'il a réalisé par la soumission et l'obéissance. Comme nous l'avons vu, le titre « Le Fils de Dieu » se réfère à l'armée céleste, particulièrement à la vue des Juifs du 1er siècle. Il s'applique à nous, car nous avons reçu l'esprit d'adoption, entre parenthèses parce que nous n'avons pas été créés comme l'armée et ainsi avons dû être greffés. C'est de la même façon dans laquelle les païens ont été greffés à Israël. Fermez la parenthèse. Dans l'énonciation de Yahushua qu'il était le Fils de Dieu, les Juifs l'ont entendu et compris pour avoir dit « Je suis votre YHWH Elohim, le fils de YHWH des armées incarnées dans la chair. » Le seul endroit où les Juifs avaient déjà entendu le terme « fils de Dieu » était en référence à l'armée céleste. Ainsi, ils l'ont interprété pour dire justement cela en effet. Telle était la raison de leur animosité. Comment autrement le terme « fils de Dieu » serait-il offensant? Ils pourraient de même facilement examiner les Écritures et voir qu'ils sont appelés Elohim à qui la parole de Dieu est adressée, mais l'expression « fils de Dieu » avait la corrélation directe à l'armée céleste. C'est pourquoi elle était si offensante pour les Juifs, puisque Yahushua n'indiquait pas seulement qu'il était le Messie, fils de David, mais employant l'expression « fils de Dieu », il disait « Je suis un de l'armée céleste incarné dans la chair ». Cet être était l'Élohim qui était connu comme l'ange de Yahovah à la tête de la maison d'Israël. Voir Zacharie chapitre 12 verset 8. Fin de la lecture de l'étude « La signification du terme fils de Dieu », étude numéro 211.